Jour de joie, pas seulement pour ce qui arrive à nos amis, mais autrement, jour de grande joie, parce qu'aujourd'hui, nous vivons la Pentecôte. Mais qu'est-ce que vraiment la Pentecôte ? La Pentecôte est d'abord une fête juive, avant qu'elle devienne une fête chrétienne. Qu'est-ce qu'elle représente pour le peuple juif ? Voici comment le grand dictionnaire de la Bible, Excelsis, définit la Pentecôte. La fête de Pentecôte était proclamée comme une vocation sacrée. Le travail habituel devait être interrompu et tout homme israélite devait se présenter au sanctuaire. J'ai oublié le jour de joie. Chaque famille apportait deux pains de fleurs de farine. Le prêtre les présentait au Seigneur. Des animaux devaient également être offerts en holocauste et sacrifice de communion. Les offrandes acceptées par Dieu présupposaient le pardon du péché et la réconciliation avec Dieu. En ce jour de joie, l'Israélite pieux exprimait sa reconnaissance pour les bénédictions de la récolte. Pentecôte signifie littéralement la cinquantaine, parce que cette grande fête se célèbre 50 jours après la Pâque, comme la fête d'action de grâce. C'est durant ce grand événement, appelé la fête des semaines, ou encore la fête des prémices, des premiers fruits de la moisson, qu'intervient ce que nous appelons aujourd'hui la Pentecôte chrétienne. J'invite sans plus tarder Rosemary Christen à venir nous faire la lecture d'Actes 2, 1 à 21.
Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres. Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Hommes de Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée.
Que signifie donc, d'après Acte 2, la Pentecôte ? La première Pentecôte, après l'ascension, complète l'œuvre de Jésus-Christ à Pâques, sa résurrection. De plus, la Pentecôte apporte les prémices de l'humanité rachetée, une ample moisson de personnes sauvées. Le seul récit biblique des événements de la Pentecôte se trouve en Acte 2, 1 à 3. C'est intéressant. Un si grand événement, et il est seulement mentionné à un endroit. C'est le jour où commence la nouvelle alliance avec la venue du Saint-Esprit. Cela marque la naissance de l'Église locale. Remettons les choses un peu dans le contexte biblique. Juste avant que Jésus soit retourné au ciel, il a confié une mission à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Vous vous souvenez, c'est la mission de l'Église locale. Mais comment effectuer cette mission ? Acte 1, 4. Jésus demande à ses disciples d'attendre à Jérusalem ce que le Père avait promis. Cette promesse se trouve au verset 8. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y eut 10 jours entre le départ de Jésus et la venue du Saint-Esprit. 10 jours d'attente, de persévérance pour les disciples. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. Ils attendaient avec l'espoir. Acte 2, 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui ressemblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils étaient ensemble, unis, dans le même lieu, très certainement dans la prière. Mais qui sont-ils ces « ils » Les apôtres, en premier, les 120 qui attendaient l'accomplissement de la prophétie et certainement d'autres croyants qui venaient spécialement pour la fête. Deux signes accompagnent la venue du Saint-Esprit. Le premier signe, un bruit comme un vent violent remplit toute la maison ou l'endroit où il se trouvait. Lors de la crucifixion de Christ, de midi à 3 heures, il y eut un phénomène surnaturel. Il y eut des ténèbres sur tout le pays. Beaucoup crurent alors que le Christ était réellement le Fils de Dieu. De même, avec ce vacarme, un bruit comme un vent violent, c'est alors la plupart des personnes présentes qui prirent conscience de l'importance de ce qui se passait. Un événement unique et surnaturel, la venue de l'Esprit Saint. Dans l'Ancien Testament, le vent symbolise la vie. Dans le Nouveau Testament, le vent est associé à l'Esprit, la présence de Dieu, le souffle créateur de vie nouvelle. Le deuxième signe qui apparut, des langues qui semblaient de feu se posaient sur eux. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, le feu est souvent associé à la présence et à la sainteté de Dieu. Le feu est même associé à Christ lui-même. Apocalypse 1:4. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Quel est le résultat de ces signes? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ce n'était pas un long processus, ça arriva d'un seul coup en un instant. L'attente était longue, mais pas le résultat. Ils se mirent à parler des langues étrangères, langues qu'ils n'avaient jamais apprises. La foule était des plus étonnés. Non seulement ils entendaient leur propre langue, mais elle sortait de la bouche des Galiléens. Selon l'opinion populaire, les Galiléens, avaient un accent et un dialecte incompréhensibles. C'étaient des gens plutôt simples, sans éducation. C'était un véritable miracle. Notre langue maternelle nous touche au plus profond de nos tripes. Dieu, à travers son esprit, les rejoint, les touche intimement au plus profond de leur être. La bonne nouvelle se répand. Au final, 3000 nouvelles personnes donnent leur vie à Christ et s'ajoutent à l'église locale. Je disais ce matin à Coraline, en regardant la salle, comme je me réjouis le jour où on se retrouve ici, on est 250, 300. Waouh ! Mais imaginez, 3000, c'est magnifique. Mais ne vous faites pas de soucis, je ne vais pas prêcher tous les dimanches là-dessus. À Babel, Dieu est descendu pour confondre leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus. Pourquoi est-ce que Dieu a détruit le langage unique de l'humanité? À cause de l'orgueil de l'homme. Ils voulaient devenir tout puissants. Dieu brouilla leur langue unique, langue appelée le syriaque, en 72 langues différentes. À la Pentecôte, Dieu redescend par l'intermédiaire du Saint-Esprit afin que les hommes se comprennent à nouveau. La diversité des langues subsiste. Cependant, il crée l'unité dans la diversité des langues et des cultures. C'est une nouvelle ère entre Dieu et son peuple. L'apôtre Pierre cite la prophétie du prophète Joël se trouvant dans le livre du petit prophète Joël au chapitre 3, du verset 1 à 5. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut, dans le ciel, et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, toute personne qui fera appel à mon nom sera sauvée. Alléluia, amen. La prophétie de Joël débute par « Dans les derniers jours, Dieu dit ». De quoi parle-t-il? C'est une expression type des temps messianiques. À la venue du Messie, la dernière partie du plan de Dieu a commencé à se réaliser. Les derniers jours ont débuté avec la première venue du Christ et se termineront à son retour. Pourquoi est-ce que Pierre cite le prophète Joël, prophète de l'Ancien Testament, en plus un prophète mineur? À la Pentecôte, la prophétie n'a été que partiellement accompli. Pierre veut que son auditoire prenne pleinement conscience du tournant capital que la Pentecôte a sur l'histoire. Les temps de la fin sont arrivés, c'est imminent. Le Saint-Esprit est répandu Et tous ceux qui l'invoquent seront sauvés. Les derniers jours ont été inaugurés. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Bien évidemment, les habitants de Jérusalem se rappellent les phénomènes qui se sont produits 7 semaines auparavant à Golgotha, alors que le Christ fut crucifié. Ils prennent maintenant conscience que ces signes étaient avant-coureurs de la promesse de la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Il est une personne à part entière et il est pleinement Dieu. Et ce, au même titre que le Père ou que le Fils. L'œuvre de l'Esprit est de parler de Jésus-Christ. Son rôle dans l'histoire du salut n'est pas de braquer le projecteur sur lui, mais sur le Christ. Comment peut-il être répandu ou déversé, me diriez-vous? Le Saint-Esprit est souvent représenté symboliquement par l'huile utilisée pour l'onction des prêtres, des prophètes ou des rois. Jésus l'a comparé à des fleuves d'eau vive. La colombe, le souffle, le vent, le feu. Je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. L'œuvre de l'Esprit acquiert une dimension universelle. C'est la participation de tous qui est mise en avant. Les hommes, les femmes, les jeunes, les aînés, les serviteurs et les servantes de Dieu. Le souhait que tous soient remplis de l'Esprit est déjà mentionné par Moïse. Nombre 11-29. Si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes. Ce désir se transforme en promesse par le prophète Joël et devient réalité le jour de la Pentecôte. Alléluia! Gloire à Dieu! Qu'est-ce qu'un prophète? Comme vous le savez, c'est un sujet vaste qui mérite au moins une à deux prédications. Pour faire court, un prophète est le porte-parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le prophète parlait de l'avenir en ces termes, oracle de Dieu. Il donnait des messages de sagesse. Très souvent, il dénonçait le mal, le péché, et dictait la conduite à avoir. Cependant, ce qui est important à savoir, c'est qu'un faux prophète était lapidé. Donc, tout prophète ne voulait pas être prophète. Pas comme maintenant, dans notre ère où ça semble être quelque chose de bien et positif. Donc il y avait la lapidation si ce qui prophétisait ne s'établissait pas. De nos jours, le prophète est en général plutôt appelé à encourager, motiver les chrétiens à s'approcher de Dieu et à faire sa volonté. Toute prophétie doit trouver son ancrage dans la parole de Dieu. Ne prenons pas toutes les prophéties comme argent comptant. Pour recevoir une parole de connaissance ou une prophétie, il faut s'ouvrir au Saint-Esprit, le vouloir et s'attendre à lui. Ensuite, prendre du temps afin de se mettre à son écoute. Et pour finir, quand il fait grâce et donne quelque chose, il faut le remercier et le transmettre avec grande humilité. Tout comme Coraline, le témoignage qu'elle a apporté au début. Elle ne voulait pas le dire et finalement elle était poussée. Elle sentait qu'elle devait le faire. Et en le faisant, elle a béni la personne qui a reçu ce que Dieu voulait lui dire. Et elle était bénie en retour pour son obéissance. Je m'arrête là pour ce sujet. Les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des rêves. Quelle est la différence entre vision et rêve? La frontière entre les deux est extrêmement difficile à définir. La vision a un caractère plutôt extatique, une extase, est de nature révélationnelle. C'est ce que Dieu montre de manière surnaturelle. Les rêves sont aussi appelés des songes. Ce sont des idées, des pensées qui se présentent dans le sommeil. Si ces rêves viennent de Dieu, ils ont pour but d'influencer la vie spirituelle des individus. Pierre, dont son humanité a renié trois fois le Christ. Rempli du Saint-Esprit, il s'exprima en ces termes. « Homme de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. » Rempli du Saint-Esprit, Pierre n'a plus peur des hommes. Il parle au nom de Jésus-Christ et 3000 personnes acceptent le Christ comme sauveur et Seigneur de leur vie. Avant la venue de l'Esprit-Saint, les disciples n'avaient pas la capacité nécessaire pour répondre favorablement à la mission de Jésus, d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Ils avaient l'enseignement de Jésus, le Maître était avec eux. Ils avaient reçu l'ordre d'y aller. Ils avaient le désir d'obéir à Christ. Mais il leur manquait quelque chose d'essentiel, de primordial. L'équipement nécessaire, la force, la puissance du mot dynamis dont ils avaient tant besoin. Une voiture ne peut fonctionner sans moteur. Une télévision ne peut fonctionner sans électricité. Le moteur fournit l'énergie nécessaire à la voiture. L'électricité permet à la télévision de produire le son et l'image. Le Saint-Esprit est la source d'énergie de la vie chrétienne. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il jetait des pierres et Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Puis, il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Après avoir dit cela, il s'endormit. Comment est-ce que Étienne a pu dire une chose pareille? Comment est-ce qu'il a pu agir comme ça et pas leur crier dessus ou essayer de se défendre? C'est seulement avec l'aide du Saint-Esprit qu'Étienne a pu agir et dire ce qu'il a dit. Sans le Saint-Esprit, c'est juste impossible. Quand on entend toutes ces histoires de martyrs à l'heure actuelle, tous ces gens qui sont persécutés, c'est seulement avec l'œuvre du Saint-Esprit en eux qu'ils arrivent à être des témoins. Sans l'Esprit de Dieu, c'est juste impossible. L'Esprit-Saint nous rend capables et nous donne ce dont nous avons tant besoin pour accomplir sa volonté. Nous avons besoin de sa présence en nous pour être ses témoins. Nous avons besoin de son courage, de sa sagesse, pour trouver les mots adéquats pour parler de Christ. Nous avons besoin de son discernement, de son amour, de sa compassion. Il ne faut pas avoir peur du Saint-Esprit. Les dons de l'Esprit sont tous infiniment bons, mais vraiment tous. Ce sont les extrêmes qui ne sont pas bonnes. Et les extrêmes ne viennent pas de Dieu ni du Saint-Esprit. C'est un Dieu d'ordre. Quand il y a des ordres, ce n'est pas Dieu, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Je suis persuadé que chacune et chacun de nous désirons plus de Dieu dans nos vies. Sinon, nous ne serions pas là. Nous désirons tous être utiles pour l'avancement de son royaume. Nous désirons tous toujours plus faire sa volonté. Pour vivre une vie remplie de Dieu, une vie qui a un impact dans ce monde, une vie qui fait la différence, nous avons besoin de la manifeste présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu qui habite en nous. C'est lui qui nous aide à prier. C'est lui qui nous convainc du péché. C'est encore lui qui nous console et qui nous donne ce dont nous avons besoin, Sans lui, nous ne pouvons rien faire. J'ai expérimenté cela hier. Je suis allée promener, je vous présente Léa, pour celles et ceux qui ne l'ont jamais vue. C'est mon chien. Et hier, c'est un chien que j'ai pris, un chien d'élevage, qui était battu. Je ne le savais pas quand je l'ai prise. L'idée, c'était que ça devienne un chien de thérapie, que je puisse la prendre dans les visites. Ce n'est pas encore tout à fait le cas. De moi, en règle générale, elle n'a pas peur. Donc vraiment pas, elle a une confiance, mais à 200%. Et hier, je suis allée promener à Belle-Lay. Je l'ai lâchée. Et tout d'un coup, elle est partie dans un champ et il y avait un fil d'électricité. Elle était électrocutée. Donc tout d'un coup, je la vois, puis elle est en train de pleurer. Donc je l'ai fait revenir de l'autre côté. Bon, après, je lui ai donné quelque chose à manger. On a continué le chemin. Il me semblait que tout allait bien. Et tout d'un coup, peut-être 5 ou 7 minutes plus tard, je veux la caresser. Elle commence à hurler de peur. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a ? On a continué le chemin. Elle avait de plus en plus peur. Et c'est arrivé jusqu'au point où je ne pouvais plus m'approcher d'elle. J'essayais de lui donner à manger, elle ne venait plus vers moi. Elle était libérée, j'ai voulu l'attacher, parce qu'il y a un chat qui venait, impossible. Et j'ai commencé à avoir peur, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire ? Ce chien est libéré, il ne vient même plus vers moi, elle a peur, elle ne s'approche plus, la queue entre les jambes, elle a peur de tout. Comment je vais faire pour la ramener à la maison ? J'ai commencé à prier, demander au Saint-Esprit de venir m'aider, de venir lui donner la paix dont elle a besoin pour pouvoir rentrer à la maison. Et elle était loin derrière moi, elle me suivait un tout petit peu. Après, elle était devant moi, mais aucun contrôle. Elle faisait tout ce qu'elle voulait. On arrive à la voiture, je ne sais pas comment. Après, elle n'aime pas rentrer dans la voiture, donc c'est un deuxième dilemme. Et à un moment donné, je l'ai regardée, je dis, je suis désolée, mais là, il faut que tu m'aides parce que je ne peux pas te toucher. Elle est montée dans le coffre. On est rentré à la maison. Mais ça, c'est vraiment la manifeste présence de Dieu. Parce que vraiment, j'ai cru qu'elle partait. Et encore ce matin, on est reparti en promenade, elle avait de nouveau peur. Mais ça allait. Donc là, vraiment, j'ai expérimenté la réponse d'une prière et le Saint-Esprit qui intervient. Et il intervient pour tous nos besoins, du quotidien, tout ce qu'on veut, c'est clair. Si c'est le royaume de Dieu, c'est encore mieux. Mais je vous garantis, si mon chien serait parti et je ne l'aurais pas eu, je n'aurais pas retrouvé, ou elle se serait fait écraser, je ne serais peut-être pas autant joyeuse aujourd'hui. Donc merci Seigneur pour son intervention. Invitons-le à prendre sa place dans nos vies et dans notre communauté. Je termine avec 2 versets bibliques. Jean 14, 16, 17. C'est Jésus qui parle. « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. » Jean 15, 26. Jésus dit « Quand je serai venu, le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage à moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. » Je vais prier. Merci Esprit de Dieu pour ta présence, Seigneur. Merci parce que tu es pleinement Dieu. Saint-Esprit, on t'invite à venir prendre ta place, la place qui est de la tienne, dans l'ordre que toi tu veux, que tu puisses faire ce que toi tu veux, parce que tu es bon. Seigneur, Seigneur Dieu, viens travailler nos cœurs, viens faire ton œuvre en nous. Esprit Saint, prends la place qui est la tienne, toujours plus dans nos cœurs, dans nos vies, afin que nous puissions être ces témoins qui parlent de toi. Et que les gens puissent te voir au travers de ton esprit qui vit en nous. Amen. Nous allons maintenant entrer dans un deuxième temps de louange et d'adoration. Durant ce temps, invitons le Saint-Esprit personnellement à prendre plus de place dans nos vies.